Deuxième partie, le fleuve et la route. Chapitre 10, le delta du Mississippi. Pendant la nuit, Petit Trois a ramé et encore ramé. On avait l'impression qu'il ne se fatiguait même pas. Il se tenait debout à la poupe, avec ses cheveux trop longs qui retombaient sur ses épaules nues, la rame en biais, comme une lance. Deux coups à droite, lent et fort, deux coups à gauche. La pirogue filait, Julie et Mine somnolaient. Moi j'étais à la proue, pelotonnée comme un hérisson, mes lunettes de travers sur le nez, les oreilles tendues pour guetter le moindre bruit. « Qu'est-ce qu'il y a par là-bas, Eddie ?» m'a demandé Petit Trois. « Un nid de serpents, du côté du rivage, mais je ne crois pas qu'il soit dangereux. En revanche, il y a un brochet d'au moins 6 pieds de long par là-bas. Il vaut mieux qu'on se déplace de l'autre côté du canal pour l'éviter. Il doit avoir des dents grosses comme ça. » Petit Trois a acquiescé et fait virer la pirogue en suivant mes instructions. Il avait confiance. Et dire qu'il s'était tellement moqué de moi quand j'expliquais que j'entendais des voix des animaux. « Ce sont des fanfaronnades, Eddie, c'est tout !» me répétait-il de son air sûr de lui, sans l'ombre d'un doute sur son front lisse. Et moi je répliquais « Eh bien non, c'est vrai. Regarde, deux perruches rouges vont se poser sur cette branche. » Et tac, en un clin d'œil, elles apparaissaient dans un bruissement d'ailes et faisaient exactement ce que j'avais annoncé. Je ne me trompais jamais, car j'étais un chaman du bayou. Le vieux Joe en était un lui aussi. Il vivait dans les bois juste derrière chez moi. Je l'avais rencontré par hasard, un jour où j'étais parti me promener. Je l'avais vu dans un arbre, perché sur une branche comme un moineau. Au village, on disait que Joe était un ivrogne, qui volait pour se payer à boire, mais personne ne le connaissait vraiment. Le vrai nom du vieux Joe, c'était Malioma. Il était un homme médecine des Indiens Choctaw. Il savait parler aux serpents et aux oiseaux. « C'est une question de regard, mais surtout d'oreille, disait-il. Tu dois t'efforcer d'écouter ce que les hommes sont trop bêtes pour entendre. » J'avais passé des après-midi entiers, assis sur le noyer de chez moi, les yeux clos, à faire comme disait Joe, et tout doucement, j'avais commencé à comprendre. « Qu'est-ce qui se passe ?» Eddie m'a demandé Petit Trois en m'arrachant à mes pensées. « Il y a un bruit qui ne me plaît pas. »« Ce n'est rien, c'est un canal. Il commence derrière ces arbres et doit être d'assez belle taille, car les poissons se laissent emporter par le courant. » « Décale-toi vers la rive où tu devras te fatiguer deux fois plus. » Petit Trois n'a pas bronché. Trois coups de rame, la proue du canoë s'est levée en fendant les flots et nous nous sommes rapprochés des îles plongées dans le noir, loin du centre du fleuve. C'était notre deuxième jour de voyage. J'avais 112 angoisses. Je les avais soigneusement comptées. Une fois, je les avais même écrites dans un cahier en les numérotant une par une. Les 17 premières étaient mes angoisses inavouables, c'est-à-dire qu'elles concernaient des choses qui me faisait tellement peur que je n'étais même pas capable de les coucher sur le papier. Venaient ensuite les angoisses graves, à savoir mourir, tomber malade et mourir, attraper froid et tomber malade et mourir, et ainsi de suite. Après les graves, il y avait les moyennes, puis les normales, puis les petites, comme ne pas savoir ma leçon et me faire punir par le révérend Thompson. Celle-là, c'était ma 112e angoisse. Depuis que j'étais partie, une bonne vingtaine de nouvelles angoisses s'étaient rajoutées à mes angoisses habituelles. Par exemple, j'avais déjà risqué de me noyer et risqué de mourir de faim et de soif. Manque de chance, je n'avais pas mon cahier pour les noter. Mon cœur battait si vite qu'il menaçait d'exploser. Et puis mes affaires me manquaient. La boussole que m'avait offerte mon père, par exemple, et qui était restée dans le tiroir de mon bureau, chez moi, comme un trésor perdu. Mais surtout, c'était mes livres qui me manquaient. Une fois, il y a très longtemps, j'avais dit à Joe l'Indien que les livres étaient une perte de temps, et il m'avait collé une grande claque derrière l'oreille. Un homme médecine connaît de nombreux sortilèges. Moi, je t'apprends ceux des Choctaw, mais les livres sont des sortilèges de l'homme blanc. J'avais alors pris conscience qu'au fond, mon père, le docteur Brown, était un homme médecine. Lui aussi, et qu'importe s'il portait toujours une chemise et une cravate, s'il avait une moustache en tire-bouchon et s'il détestait se promener dans le bayou parce qu'il salissait ses chaussures. Ma mère, elle, n'était jamais allée dans le bayou. Si ça se trouve, elle n'avait pas quitté la chambre depuis mon départ. Pâle comme un linge, la peau trempée de sueur. Ma mère n'allait pas bien. Elle avait toujours une nouvelle maladie. La moindre frayeur suffisait à la clouer au lit. Il était donc facile d'imaginer ce qu'elle traversait en ce moment. Elle risquait peut-être de mourir de chagrin. Et ça, à vrai dire, c'était mon angoisse numéro 2. Pendant toute la journée de la veille, nous étions restés à l'écart des canaux les plus fréquentés, de peur que quelqu'un nous voie et nous fasse rebrousser chemin. Les fois où on se retrouvait dans un cul-de-sac, et cela arrivait souvent, on traînait le canoë au milieu de la boue et des roseaux, avec Petit Trois devant et moi derrière. Julie et Mine portaient nos maigres bagages. J'indiquais le cap en lisant la langue des étoiles et les plantes, ou au contraire en suivant l'itinéraire des tortues qui nageaient toujours vers la mer en cette saison. Nous, on voyageait vers le nord, sans jamais nous arrêter. De temps en temps, je jetais un œil furtif à Petit Trois. Il était beau, une vraie créature de l'eau et des forêts. Est-ce qu'il se demandait ce qui se passait chez lui, parfois? Si je lui posais la question, il me parlerait certainement de mon frère Chuck et d'un télégramme improbable qu'on enverrait de la Nouvelle-Orléans. Julie et Mine ne pensaient pas à leur maison, eux non plus, mais dans leur cas, c'était encore différent. Pour eux, leur maison, c'était un endroit d'où l'on avait envie de s'enfuir le plus vite possible. Enfin, il y avait moi, et 10 yeux bigleux, le chaman à lunettes, l'enfant du bayou et des livres. Dans l'intervalle, notre canoë avait été emporté sur le grand fleuve. Il y avait au moins 20 pas entre les deux berges, et le courant était si fort qu'il nous entraînait dans l'autre sens. J'ai demandé à Petit Trois de se rapprocher du rivage où l'eau était plus calme, et nous avons lentement remonté le courant en nous frayant un chemin au milieu des roseaux bas et des monticules de boue. Il était 10, 11 heures du soir et il faisait nuit. « J'ai faim », a dit Julie, « et Mine est fatiguée de ne pas bouger. On descend quand ?» J'ai répondu, « Dans pas longtemps. Tu vois cette ombre noire qui flotte au-dessus des arbres. C'est un hibou cornu, et il est en chasse. Ça veut dire que la terre ferme est de ce côté. » Julie m'a lancé un regard en coin, l'air de dire, « Eh bien, Ed, tu nous réserves de sacrées surprises. » Et elle avait raison. Là-bas, dans le bayou, je me sentais plus libre et plus grand que jamais. Nous avons atteint le rivage, le canoë s'est enfoncé dans la boue, et Petit Trois a été le premier à descendre d'un bond. Avec de l'eau jusqu'aux genoux, il a poussé notre bateau sur la terre ferme. En débarquant, je ne tenais presque plus sur mes jambes. Julie était toute pâle et Mine avait les yeux clos, la montre toujours serrée dans le creux de la main comme une poupée vaudou. Durant la journée, on avait pêché des langoustes, des grosses, avec une carapace rouge. Petit Trois a allumé un feu et on les a fait griller en les cuisant jusqu'à ce que les bêtes soient recouvertes de rayons noirs. Les langoustes étaient très moelleuses, tendres, avec l'extérieur brûlé et l'intérieur cru. Je n'avais rien mangé d'aussi délicieux. On avait l'impression que Petit Trois voulait les dévorer en entier avec la carapace, tandis qu'un sourire éclairait le visage de Julie comme une demi-lune. À la fin du dîner, Petit Trois a terminé par un rôt tonitruant. Il a essuyé sa bouche avec sa manche et proclamé « Maintenant ça va mieux ». « Ça ira encore mieux si tu évitais de rôter », a rétorqué Julie. Elle n'avait pas fini sa phrase qu'elle-même a laissé échapper un petit rôt qui n'était pas si petit d'ailleurs. Dans la lumière du feu, nous sommes tous partis d'un bruyant éclat de rire. Mine riait lui aussi. C'était un beau son mélodieux. Au-dessus de nous, il y avait un ciel sombre et sans étoiles. La nuit était humide et pleine de petits bruits frémissants. J'ai proposé qu'on dorme un peu. Si mes calculs sont exacts, demain on traversera le Salvador, et là on saura arriver. « C'est quoi ce Salvador ?» a demandé Julie. Petit Trois se nettoyait les dents avec les pattes, toutes fines, d'une langouste. « Ouais, c'est quoi ?» Comme je me souvenais bien des livres de géographie de mon père, j'ai expliqué. « C'est un lac au sud de la Nouvelle-Orléans. En principe, il est sacrément grand et il marque la fin du bayou. Il nous faudra un moment pour le traverser, mais avant la nuit, on sera en ville. » Et à ce moment-là, il vaudra mieux penser à un plan, a fait observer Julie. « Je veux dire... « On doit aller jusqu'à Chicago, mais comment? On ne sait même pas à quelle distance se trouve la ville. »« Si, plus ou moins. Elle est au nord et elle est très loin. »« Justement, on ne peut quand même pas y aller à pied. » Petit Trois s'était tiré comme si cette conversation l'ennuyait à mourir. « On en a déjà parlé, non? On trouvera un moyen de transport, on a de l'argent et on peut vendre le canoë. » Et le revolver de Jack, ai-je ajouté. À vrai dire, j'en voulais un peu à Petit Trois au sujet de ce revolver. Depuis qu'il l'avait trouvé dans la poche de la redingote, il ne m'avait pas laissé le prendre. Pas la moindre petite fois. Moi, je vous assure qu'on n'a pas à se faire autant de billes à bailler mon ami. D'autant que je suis crevée. En réalité, avant même d'avoir fini sa phrase, il s'était déjà étendu sur le côté pour dormir, les mains jointes comme s'il voulait prier. C'est la première fois que je vois une chose pareille, a souri Julie. Il devait être épuisé, vraiment. Pour ma part, les mots de Julie continuaient de me trotter dans la tête. Elle avait raison. Arriver à Chicago ne serait pas évident, et c'était à moi de trouver le chemin. C'était moi le guide, non. J'étais le plus grand, et je connaissais la magie de l'homme blanc comme celle des Indiens. Seulement j'avais peur. La voilà la vérité. Petit Trois disait toujours que j'étais un trouillard, un gros bébé à sa maman, parce que je pleurais pour un rien. Même si je n'y songeais jamais, il avait peut-être raison. Peut-être que j'étais vraiment un lâche. Est-ce que j'aurais pas mieux fait de renoncer à cette histoire de fou et rentrer à la maison à l'abri du danger? Un garçon avec 112 angoisses, 132 désormais, n'était pas taillé pour une telle aventure. « À quoi rime cette mine soucieuse ?» Eddie a demandé Julie. Elle s'est approchée à poser la tête contre mon épaule. Julie avait une odeur agréable, douce, qui rappelait la canne à sucre brûlée. Sa tête était lourde contre mon épaule et ses cheveux longs étaient étalés sur ma chemise. En essayant de baisser les yeux, je me suis aperçue qu'elle s'était endormie. Mine, lui, s'était isolé, comme toujours, et semblait regarder un point loin derrière la cime des arbres. Qui aurait pu dire ce qu'il avait en tête en ce moment ? « Il ne reste que toi et moi, pas vrai, Mine ?» lui ai-je doucement demandé. Le petit n'a rien dit, mais il s'est levé, s'est dirigé vers moi, s'est allongé par terre et a posé la tête sur mes jambes. Et voilà, eux ils dormaient pendant qu'Eddie le chaman restait éveillé et parlait avec la nuit. Le hibou cornu aperçu un peu plus tôt a lancé un appel dans le noir, de longs cris modulés qui ressemblaient au bougonnement d'un vieux gentleman. C'est là que j'ai compris ce qu'il essayait de me dire. Il me disait de ne plus m'angoisser.